bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des futurs. Que vous nous regardiez en vidéo, que vous nous suiviez, que vous nous écoutiez en podcast, eh bien, vous avez bien raison et nous sommes très heureux de passer ce petit moment avec vous. Je suis Éloi Choplin et cette émission est proposée par les talents conjugués de JD Carré, Le Cube et de l'Écosphère à Gélos. Vous le savez, depuis 12 ans, de notre première émission avec Joël de Ronay, notre parrain, le rendez-vous des futurs explore les changements en cours en multipliant les regards, les points de vue, les pas de côté, et puis en démontrant l'urgence vitale de toujours avoir en tête la nuance, la conversation, la couleur, toujours. Vers de terre, flore, Brésil, jardin, résilience alimentaire, agriculture urbaine, imaginaire, engagement, le menu est très très vaste, très très large. Juste après cette petite respiration, on démarre, on plonge gaiement dans ce 157e rendez-vous des futurs. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous présente nos invités et ils sont deux. Ève Gabrielle Demange, bonjour Ève. Avec le micro, ce sera parfait, tout le monde vous entendra.
Bonjour.
Ève, alors j'ai une petite manière bien à moi de présenter mes invités, nos invités. Je vais sur le réseau avec le petit oiseau bleu parce que c'est finalement la présentation la plus courte et puis comme ça, on n'en parle plus. Bon. Alors vous, je suis allé voir donc sur ce réseau, il y a marqué stratégie de contenu et récit prospectif, auteur de fiction climatique, élu à Bordeaux, sobriété numérique, résilience alimentaire. Je pense qu'il manque pas mal de choses là-dedans, comme on va le voir pendant le moment qu'on va passer. Et puis j'ai pris aussi votre dernière publication sur la place publique mise à disposition par le groupe Meta, je parle évidemment de Facebook, une publication parce que, ben parce que finalement, vous allez voir, enfin moi, elle me parle particulièrement, mais si vous allez sur, parce que si vous suivez Ève Gabrielle Demange sur les réseaux sociaux et sur Facebook notamment, votre dernière publication, c'est une photo, le retour du train de nuit en Europe. C'est une photo où on voit qu'on est bien aussi en prenant le temps, en prenant le train, entre là en l'occurrence une nuit de train à travers l'Angleterre pour rejoindre les mythiques terres d'Écosse. Alors, au-delà du fait que c'est le prochain voyage que j'ai envie de faire, et ça, franchement, tout le monde s'en fiche, c'est aussi parce que je crois que vous rejoignez notre autre invité que je m'empresser de vous présenter, dans l'éloge d'une certaine patience, l'éloge du voyage, l'éloge de prendre le temps de peut-être regarder les arbres pousser aussi sur le chemin. Est-ce que c'est un peu ça qui vous a incité à poster cette publication ?
Alors, c'est vrai que je m'intéresse énormément à la prospective, en fait, à l'avenir. C'est ce qui m'a amené à écrire le dernier roman que j'ai écrit, qui s'appelle La part cachée du monde, qui est un roman d'anticipation. C'est vrai que finalement, la manière dont on vivra demain m'a énormément passionnée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'interroge et la manière dont je regarde aujourd'hui tout ce qui se fait actuellement en France, en Europe, est vraiment à chaque fois teintée de cet intérêt pour la manière dont on vivra dans 100 ans, dans 150 ans.
Et dans La part cachée du monde, effectivement, on voit l'importance du voyage, la traversée. Mais ça, on déflore pas forcément tout ce qu'on va se dire. Éric Lenoir, bonjour Éric.
Bonjour Éloi.
Éric, bon. Pour vous présenter, c'est pas si simple. Bon, vous êtes paysagiste, voilà. Vous êtes essayiste aussi, puis vous êtes punk, ça c'est vous qui le dites, et puis on va voir pourquoi. Et ce qu'on entend derrière ce mot, on pensait connaître, mais en fait, en vous lisant et en vous suivant, ben, on se trompait peut-être un petit peu sur cette notion de punk, ça va être intéressant. Bon, vous, de toute façon, vous n'avez pas de profil sur le réseau d'Elon Musk, donc on va aller sur celui de Mark Zuckerberg, hein, voilà. Alors, votre dernière publication, fascinante cette dernière publication. Suivez Éric Lenoir sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez jamais vu à quoi le bien-être ressemble, jetez un œil à cette petite protéine de myosine transportant une balle d'endorphine dans le cortex pariétal par le biais d'un filament actif. C'est le transport de cette endorphine jusqu'au cœur du cortex qui atténue nos peines, nos douleurs et contribue majoritairement à ce qu'on soit heureux. Et moi, je suis persuadé qu'on va stimuler cette protéine de myosine pendant toute cette conversation.
Alors en fait, on va s'être trompé surtout parce que j'ai fait un correctif.
Non mince, j'ai pas vu le correctif.
Copain du CNRS qui a regardé ça et qui a dit en fait non.
Donc en fait,
c'est pas vraiment de la myosine, c'est pas vraiment de l'endorphine. Mais voilà, c'est une publication qui a été faite il y a plusieurs années, qui a été très mal traduite et qui s'est retrouvée partout avec une mauvaise traduction. Et j'ai corrigé et j'ai gardé le texte original.
C'est génial. J'ai sauté à pieds joints dedans et ben voilà.
Les merveilles des réseaux sociaux.
C'était pour moi.
Merci Marc.
Merci beaucoup Marc. Alors votre publication d'avant, elle, je vais la citer juste parce que je trouve qu'elle illustre aussi un petit peu ce que vous êtes. Mais elle mettait les points sur les i et puis quelques barres sur des t. Sur un débat violent, clivant, méconnu, le débat furieusement d'actualité, les bassines. Et à la fin de ce poste, que chacun peut aller voir. Vous mettez soutien total au collectif Bassine Non Merci, que je ne mets pas en hashtag pour éviter que le poste soit bloqué par Facebook. Et ça, en lisant ça, moi, ça m'a glacé le sang, parce que cette simple phrase montre bien l'état de notre mental, l'état de notre débat, de nos discussions, et puis aussi de notre, du peu de notre souveraineté numérique, quelque part.
C'est rien de le dire.
C'est ça. Hein. Alors, on va poursuivre un petit peu. J'ai des petites questions toujours pour présenter nos invités. J'aime bien quand on pose vraiment le décor, quand on prend le temps de se présenter. C'est pas mal avant de parler. Ève Gabriel Demange, est-ce que vous avez eu une rencontre qui vous a fait tout changer? Ce qu'on appelle le tipping point, en gros, le moment de bascule. La rencontre qui vous a fait vriller, peut-être.
Alors non, je pense que ça a été un chemin en fait, vraiment un long chemin qui m'a fait connaître, découvrir et rencontrer énormément de personnes différentes, que ce soit des scientifiques, des artistes, des journalistes, mais aussi des activistes, à la fois en tant que romancière, mais aussi dans mon activité professionnelle. Mais il y a eu vraiment, je pense qu'il y a eu un moment quand même clé, c'est la COP21 à Paris, parce que à l'époque je faisais partie de l'équipe éditoriale, donc d'un projet emmené par Anne-Sophie Novel, qui rassemblait tous les journalistes internationaux qui suivaient la COP21 et qui s'étaient rassemblés dans un lieu qui s'appelle l'auberge, c'était le Bellucci, donc pas très loin de là où se passaient les discussions. Et ça a été vraiment 15 jours pour moi extraordinaire, parce que vraiment de rencontres, de prise de conscience, c'était non seulement des rencontres intellectuelles, mais surtout des rencontres de cœur, d'émotions, de prise de conscience. À l'époque, on n'était pas encore aussi avancé. Je pense que on avait le sentiment quand même d'être un peu seul parfois, de finalement suivre tous ces rapports qui tombaient, et puis parfois d'être, quand on en parlait autour de nous, d'être un petit peu de prêcher dans un désert, on va dire. Et là, d'un seul coup, on se retrouvait avec tout un tas de personnalités qui venaient de plein d'horizons différents, de plein de pays différents, qui étaient conscients au même niveau que nous. Et il y avait cette même forme de tristesse mélangée à de la colère, enfin quelque chose qu'on a envie de transformer pour se mettre en action. Et cette rencontre, pour moi, a été juste extraordinaire. Ça a été un moment fabuleux. Et je pense que tout ce qui a découlé après, probablement aussi que mon engagement, ma décision de m'engager en politique, est venue de ce moment-là.
Donc c'est une rencontre avec un événement fort, ouais, la COP21.
C'est ça.
Moi, je me souviens d'Anne-Sophie Novel, qui on avait fait une émission avec elle, elle nous parlait de 2009. Et je me souviens, quand elle nous racontait ce qui se passait à Copenhague, c'était la COP 16 sans doute, ou la COP 15, c'était vraiment éloigné de tous nos sujets. On avait vu après, en 2015, effectivement, que les choses avaient un peu avancé. On le voit depuis. Ça progresse, mais ça fait quand même 13 ans, Copenhague. Et déjà, il y avait urgence. Vous, est-ce qu'il y a une rencontre, Eric ?
J'ai envie de répondre pareil. C'est un long chemin aussi, qui a commencé très très tôt. La rencontre avec la lecture. Quand j'ai appris à lire et que j'ai découvert qu'une vieille dame que j'adorais dans ma cité HLM portait le même nom de famille que celui que je voyais sur la rue qui emmenait à mon école, sur la clinique où je suis né, etc. Et que je me suis rendu compte que cette personne qui vivait dans cette cité, qui me sortait déjà par les yeux à l'époque, était la veuve de la personne qui avait urbanisé toute la ville où je vivais. Et c'est là que j'ai compris que les meilleures intentions du monde pouvaient mener à quelque chose qui était vraiment foireux. Et ça, en termes d'humilité, quand on propose quelque chose, derrière, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, après, la rage qui est venue avec, elle a continué à s'entretenir parce que j'ai vécu l'urbanisation de très près. Et je pense que c'est peut-être ça la plus grosse rencontre, c'est de vivre l'urbanisation. Je l'ai vécu d'abord dans le 93 où je suis né, en voyant toutes ces cités qui se construisaient ou qui se détruisaient déjà dans les années 80. Et puis après, Marne-la-Vallée, avec ces villes à la campagne telles qu'on les vendait à l'époque aux gens qui venaient habiter là, et qui étaient de plus en plus des villes, de moins en moins à la campagne, à mesure que des choses se créaient. Un gros choc, je m'amuse souvent à dire ça, parce que quand j'ai des discussions avec les archis, c'est un truc que j'aime bien mettre en avant. Et je m'étais trouvé, quand on a déménagé de la cité vers Marne-la-Vallée, verdoyante, J'avais mon petit vélo et puis enfin mon petit vélo non, j'avais un VTT comme bref, j'allais me balader, j'avais trouvé une source où pêcher avec une mare au milieu des bois perdus, truc super, jusqu'à un jour j'entends les bulldozers arriver. Je discute avec les mecs du chantier, ils disent, ah mais non, vous pouvez pas venir là, il y a une mare, il y a des poissons, il y a tout ce qu'il faut. Ils me disent ah non, mais t'inquiète, on sait comment la sécher, on sait comment ça marche, ça va faire. Bon voilà, mon truc était détruit et en fait c'était pour construire l'école d'architecture.
D'accord.
Et j'ai trouvé que le symbole était effroyable, en fait, absolument effroyable.
Ça, c'est effectivement une rencontre à un moment de bascule, quoi. C'est ça.
La bascule avait commencé bien longtemps avant, ouais, mais ça a été encore un truc pour aggraver le problème.
Eric, s'il y en a d'autres, 14 ans, 14 ans c'est important, parce que c'est l'âge où on est censé devoir commencer à se préoccuper de son orientation, quoi, de ses métiers à venir. Si un enfant de 14 ans vous demande ce que vous faites dans la vie, vous dites quoi ?
J'en ai strictement aucune idée. J'essaye de suivre les grands principes qui étaient les miens déjà quand j'étais un môme. C'est-à-dire on va pas pourrir le monde, on va être gentil avec les autres, on va faire en sorte de bien vivre dans un endroit qui est beau en prenant soin de ce qui est vivant. C'est très con. Mais si on arrive à appliquer ça, on est déjà pas trop trop mal normalement dans un projet de vie.
Et vous, Eve ?
Alors, moi, je lui dirais que je suis d'abord une maman, la mère d'un enfant, enfin de trois enfants, trois garçons, qui ont à peu près le même âge, hein, puisque 17 ans, 16 ans et 12 ans. Et que je suis une citoyenne engagée localement, qui essaye de faire bouger les choses en action, de raconter une histoire en action, de comment est-ce qu'on peut construire, faire bouger sa ville. Sa région et qui s'interroge sur l'avenir, qui réfléchit à ce que pourrait être un avenir différent. Je crois que je vous dirais ça. Je sais pas si c'est très clair.
Si, puis après, je pense qu'il verrait que, oui, donc on peut écrire un roman, on peut être engagé en politique, on peut s'intéresser à plein de choses. Bon, finalement, c'est cool.
Mais c'est vrai que le problème du roman, c'est que ça reste quand même très, même si effectivement ça peut faire bouger, parce que la fiction, l'imaginaire, je pense au final, quand même, est très en action dans le monde souterrain un peu de notre inconscient, de nos idées, de ce qu'on partage, de ce qui façonne notre façon collective de penser et de ce qui est possible ou pas, il repousse les limites, donc c'est très important, mais en même temps ça reste quand même très conceptuel, très virtuel, alors que quelque part l'action concrète de terrain quand on est élu, je veux dire, quand je suis arrivée à la ville de Bordeaux, que j'étais élue, une des premières choses qu'on a faites, c'est de transformer 4 hectares, d'installer un maraîcher sur 4 hectares qui était en friche, quoi. Donc, et ça s'est fait en un an, donc c'est hyper concret, quoi.
C'est du concret, ouais. Bon, je pense que maintenant on est au clair, on s'est présenté les uns les autres, c'est parfait. Et ben maintenant, il va falloir poser un petit peu les sujets. Et ça, pour ça, j'ai confié cette mission à Coralie et Jérémy, qui nous présentent ça sous forme de revue de presse.
Calme, vous vous imprégnez de la paix qui règne dans cette forêt, de la force tranquille de la nature.
Jérémy, il faut qu'on démarre la chronique.
Détends-toi. Respire à plein poumon, sens la sève des arbres.
Jérémy, on va se faire gronder par Éloi parce qu'on fait trop long.
En même temps, vu ce qu'on s'apprête à débiter, un petit peu de relaxation, ça peut pas faire de mal.
En effet, car comme nous pouvons le lire dans un article du 13 octobre paru sur France TV Info, un récent rapport du WWF dresse un constat alarmant. En 50 ans, 69% des vertébrés ont disparu. En eau douce, c'est 83% de la population globale qui s'est éteinte.
De leur côté, les invertébrés ne vont pas beaucoup mieux, comme nous l'apprend un article de Géo.fr publié le 21 octobre. Victime de l'agriculture intensive et des pesticides, la population de vers de terre est en chute libre. Ce petit être, que la loi française ne considère même pas comme un animal, a pourtant un rôle essentiel entre aération, dépollution et fertilisation des sols. Et oui, sans eux, pas de plantes et pas d'agriculture.
Continuons ce joyeux point sur la situation avec un article de Reporter.net du 19 janvier dernier. Les plantes souffrent du réchauffement climatique et ont besoin de se déplacer pour trouver un environnement plus propice à leur développement. Mais pour se déplacer, elles ont besoin d'oiseaux, de mammifères, d'insectes. Sauf qu'avec un taux d'extinction des espèces aujourd'hui 100 fois supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d'années, nous constatons une réduction de 60% de la capacité des plantes à s'adapter au changement climatique, ce qui, à terme, mènera à l'extinction de certaines espèces végétales.
Extinction végétale toujours, avec 1455 km² de déforestation en Amazonie rien que sur le mois de septembre 2022. Soit pour comparaison, 14 fois la surface de Paris et 48% de plus que ce qui n'avait été abattu en septembre 2021. Avec en plus de ça quelques 40 000 incendies enregistrés depuis janvier, nous comptons un total de pas loin de 9000 km² de forêt en moins en Amazonie sur l'année 2022. C'est à lire sur greenpeace.fr dans un article du 7 octobre, qui au passage nous rappelle que 17% du poumon de notre planète a été détruit et qu'au palier de 25%, tout son écosystème s'effondrera.
Et la réconciliation avec la nature n'est pas gagnée. Le saviez-vous? Une loi française vous oblige à entretenir votre jardin pour lutter contre les jungles végétales. Conformément à l'article 22-13-25 du Code général des collectivités territoriales, tout propriétaire ou locataire qui laisse son jardin en friche peut être contraint d'effectuer des travaux de remise en état et de nettoyage. Il n'étonnera personne que ce charmant guide du bon voisinage soit paru sur le Figaro.fr qui justifie la dénonciation des grévistes de la tondeuse par la nécessité d'éviter la propagation d'insectes ou de nuisibles. Allez savoir qui sont réellement les nuisibles dans cette sombre histoire.
Alors plus que jamais, il semble nécessaire de lire et relire cet entretien avec Philippe Descola, paru sur Uzbek Erika en 2020. L'anthropologue nous invite à repenser notre rapport au monde.
La nature n'existe pas, c'est une notion abstraite qui a séparé artificiellement l'homme du reste du monde et du vivant. Il est vital de sortir de l'anthropocentrisme.
Mais comme ce n'est pas pour demain, rabibochons-nous d'abord avec ces plantes que l'on croise tous les jours. C'est ce que propose Boris Pressec, dont l'action est à l'honneur d'un article paru le 27 août sur ladépêche.fr. Le botaniste s'évertue depuis 2004 à nommer à la craie sur les trottoirs de sa ville les soi-disant mauvaises herbes qui poussent envers et malgré tout dans la moindre fissure de béton qu'elle croise. Chez nos potes des murs, éleusine des Indes, amarante couchée, figuier, c'est plus de 800 espèces qu'il a à ce jour recensées dans les rues toulousaines et avec lesquelles il nous invite à faire connaissance.
Mieux connaître les plantes pour mieux les respecter, c'est aussi le credo d'Ophélie Damblay. À travers son site internet et ses réseaux sociaux Ta Mère Nature, l'agricultrice urbaine nous parle entre autres des plantes dont tout le monde se fout mais qui vivent pourtant dans nos villes. On découvre avec beaucoup d'humour que la renouée du Japon est une résistante qui fait des gros doigts à notre système agro-industriel, que le Buddleia est capable de revégétaliser des gros tas de gravats tout pourris, ou encore que la vergerette du Canada aurait contribué à la survie des castors.
C'est bien, je trouve, qu'on finisse avec des trucs un peu positifs.
Ouais, on va dire ça, mais quand même, ça faisait comment ton truc du début, là?
Vous trouvez à l'orée d'une forêt. Il fait beau, 30 degrés en automne, quelle chance. Vous marchez tranquillement sans être dérangé par le chant des oiseaux qui sont tous morts, bercés par le bruit des bulldozers et le fracas des troncs d'arbres. Parfaitement satisfait de votre domination, devant le spectacle de la destruction de la nature, un sentiment de puissance vous emplit.
Mais c'est horrible ce que tu dis.
Oui, ben, je m'adapte au contexte.
Merci Coralie, merci Jérémy, ça donne la pêche. On était vraiment très très concentrés pendant cette revue de presse. S'il y avait un sujet, Eve, s'il y avait un sujet sur lequel vous rebondiriez là.
Bah, moi je vais attraper le changement entre le début et la fin qui porte un peu à rire, mais c'est vrai que quand il change son récit à la fin où on entend d'un seul coup effectivement tout ce qui vient détruire la forêt, je pense que cette conscience effectivement de ce qui menace aujourd'hui quelque chose qui nous paraît immuable comme par exemple une forêt et qui est au cœur de mon dernier roman, cette conscience que effectivement ces arbres, les arbres, ces forêts qui sont parfois un refuge qu'on considère comme quelque chose qu'on a toujours eu, qui est comme un trésor, Qu'aujourd'hui, en fait, finalement, le réchauffement climatique menace, en fait, tout simplement, cet équilibre, ces forêts qu'on a, et que finalement, ces arbres, ils ont de plus en plus de mal, année après année, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de jambes, donc ils ne peuvent pas bouger. Ils sont obligés de s'adapter à l'endroit où ils se trouvent, et l'endroit où ils se trouvent, ça bouge très, très vite au niveau du climat. Qui fait que clairement cette prise de conscience là qui est très concrète hein, je pense qu'elle est en train d'arriver, elle, en tout cas nous dans le département de la Gironde avec les feux qu'on a eus qui ont détruit quand même des milliers d'hectares de forêt, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même très forte et aussi en France hein, mais c'est vrai que je trouve que cette différence entre le début et la fin résume bien finalement l'époque.
Oui, c'est très amusant, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai qu'il vaut mieux en rire. Enfin, le rire est la politesse du désespoir. Là, pour le coup, on est vraiment là-dedans. On a juste à s'accrocher juste au premier mot. Enfin, on pourrait s'arrêter aux premiers mots qui ont été prononcés, hormis le truc New Age dans la forêt, mais les chiffres de la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. 80% de biodiversité, ça reste malgré tout abstrait pour beaucoup de gens. Par contre, vous leur dites, voilà, vous rassemblez votre famille, vous êtes combien ? Vous êtes 10 ? Ok, vous en enlevez 8. Vous en enlevez 8 dans la pièce, ils disparaissent, ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Ça devient un peu plus concret. Et ça fait partie des choses qui marquent un peu les gens, qui commencent à essayer de retrouver le chemin vers ça. L'effondrement de la biodiversité est quelque chose d'absolument colossal, qui contient en plus une partie des causes du réchauffement climatique. Et on sait très très bien, c'est de plus en plus démontré en fait par des études qui sont parfois contradictoires, mais parce qu'on est en train d'explorer un monde qui est complètement nouveau hein, en termes de connaissances. Mais la plupart des études tendent à montrer que plus il y a de diversité, plus il y a de biodiversité, plus on a des outils de résilience pour grosso modo tous les problèmes, que ce soit les problèmes de pandémie. Je vous invite à voir La fabrique des pandémies de Marie-Monique Romain, il y a des infos très très intéressantes là-dessus, mais aussi tout simplement le réchauffement climatique. Il y a une étude britannique qui montre que si on retrouvait les stocks de cétacés, de baleines, grosso modo, qu'on avait avant la grosse période de chasse à la baleine à la fin du 19e et début 20e siècle, et jusqu'aux années 80, grosso modo, on pourrait à peu près stocker tout le carbone qu'on a en trop actuellement, juste en remettant la population de baleines qu'on avait avant ça. Donc la diversité a vraiment, pour moi, une importance absolument capitale. Et puis on ne va même pas parler de la ressource en eau, mais si, on va en parler certainement. Mais
si, je pense qu'on va l'aborder, c'est sûr. Moi, je voulais démarrer par le jardin, parce que c'est quand même, c'est votre truc, mais c'est aussi votre truc, finalement. Le jardin, en lisant le petit traité du jardin punk et le grand traité également du jardin punk d'Éric Lenoir, le jardin, c'est une clé de lecture du monde. C'est une porte d'entrée pour comprendre comment l'humain fonctionne, quels sont ses liens avec le vivant, avec la faune, la flore, avec la ville aussi. C'est comme ça que vous abordez, vous, au jour le jour, votre métier de paysagiste ou comment...
Mon métier de paysagiste consiste pour beaucoup à enlever des idées préconçues et à essayer de faire en sorte que le jardin ne soit pas juste un décor. Parce qu'on a un problème, et c'est pour ça, pour tout actuellement, hein, le jardin, mais aussi tous les endroits où on vit. C'est... Quand on parle de la nature...
Doit être taillé, tout doit être tondu,
C'est au-delà de ça, c'est un décor. Même les outils de sensibilisation qui sont faits par certaines collectivités, j'ai en tête l'aménagement qui a été fait à Romainville sur la colline des Forts, par exemple, ou des choses comme ça, sont des choses qui distancient malgré tout le public de la nature. Ça ne sert à rien de montrer un panneau avec les animaux qui manquent ou qu'on devrait voir. Ce qu'il faut, c'est asseoir un môme dans l'herbe et puis qu'il voit comment ça se passe. C'est faire en sorte d'avoir des activités dans la forêt, de faire cours à l'extérieur plutôt que d'avoir des cours où on vous parle de choses qu'on ne va pas voir. Il y a des statistiques qui existent qui sont par exemple que dans une région laitière comme du côté de Besançon, il y a, je crois que c'est 60%, 6 enfants sur 10 de moins de 10 ans qui ne font pas le lien entre le lait et la vache.
6 enfants sur 10
De moins de 10 ans, c'est à peu près ça, ce qu'on m'avait rapporté comme chiffre. Et bon, dans tous les cas... Les chiffres sont énormes dans tous les cas. Moi, j'habite Joigny, pareil, il y a une grosse proportion des mômes qui n'ont jamais vu une vache, j'habite pas Joigny, j'habite à côté de Joigny, à la campagne, et les mômes n'ont pas vu une vache, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vache. Quand ils découvrent une vache, c'est « Ah, oh, mais c'est aussi gros que ça, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ?» quoi. C'est tout, il y a une déconnexion totale. Les jardins, pour moi, il faut que ça redevienne un outil de connexion, pas un outil de décor. Et ça peut être beau, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire, qui s'est déjà baladé dans la nature en disant « Oh, c'est moche la nature ?» Par contre, les jardins, il y en a en plein. On peut aller, c'est moche.
Et ça veut dire que vous arrivez à faire comprendre aux gens, en tout cas, c'est tout votre, le défi que vous vous lancez très, très souvent, de faire comprendre que non, une herbe n'est pas mauvaise, que le pissenlit, faut pas forcément tout arracher, mais on peut aussi le manger. Que c'est un peu ça que vous dites, que oui, on peut laisser pousser de l'herbe entre des pavés, par exemple.
On peut déjà regarder ce qu'il y a avant de commencer à intervenir. Moi, je me guide beaucoup pour la non-intervention, ce qui est très, très, très difficile, parce que la fonction même du jardinier, quand on sort de l'école, c'est d'avoir compris comment on peut intervenir sur tout pour transformer la nature, pour qu'elle soit exactement ce qu'on en souhaite. Et là, en fait, ma proposition, elle est uniquement liée au temps qu'on vit. Je serais né au 19e, j'aurais eu certainement une proposition différente. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est bien plus important de laisser vivre un maximum d'espèces, notamment ce qui est déjà en place, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va planter, si ça va pousser déjà, rien que ça, aujourd'hui. Petit exemple, hein, Banyuls, sur mer, où je suis intervenu cet été, je rencontre un paysan boulanger, super, formidable, extraordinaire, qui se rend compte qu'il n'arrive plus à faire pousser ses céréales, parce qu'il fait trop chaud, trop sec, dans les Pyrénées-Orientales, c'est une catastrophe absolue. Il a compris qu'il fallait passer par l'agroforesterie, c'est-à-dire planter des arbres pour pouvoir donner un peu d'ombre, ramener un peu d'hygrométrie, casser le vent, ce qu'on a complètement détruit avec les remembrements successifs et la politique agricole commune européenne qui contribue à ce que les exploitations soient de plus en plus grosses. Bon, digression. Ce type-là, sa solution, en fait, il ne peut pas l'appliquer. Parce que les arbres qu'il a plantés il y a 5 ans, pour ceux qui ont survécu, font 60 cm.
D'accord.
On en est là. Les espèces les plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse, comme par exemple le chêne-liège, sont en train de crever dans le sud de la France. Donc tout ça, ça se déplace, sachant que le déplacement naturel d'une espèce d'arbre, c'est environ 5 mètres par an, maximum, vers le nord, et que la vitesse du réchauffement climatique est bien supérieure. Vous imaginez un petit peu le genre de problématique qu'on rencontre. Donc, mon travail consiste beaucoup à désidéaliser et puis à pousser les gens à ne pas détruire ce qui existe déjà, parce qu'on n'arrivera pas forcément à le remplacer.
J'ai lu ce que vous avez dit dans le magazine 18h39. Par exemple, j'étais chez des clients qui avaient un court de tennis, mais n'en faisaient pas. Et puis, je sais que vous n'êtes pas forcément un tennisman.
No sport.
J'ai installé des plantes dans le cours pour qu'elles le détruisent. J'y ai planté des bouleaux qui ont traversé le sol. Et maintenant, ce sont eux qui s'occupent de créer un milieu propice à la venue d'autres végétaux. Votre boulot, il est d'accompagner par petites touches et de laisser faire.
Imaginez qu'on est plus fort que la nature, c'est un petit peu hors des clous. Enfin, c'est une présomption absolue, c'est de l'anthropomorphisme, de l'anthropocentrisme. C'est vraiment s'imaginer des choses qui ne sont pas la réalité. Vous laissez n'importe quel terrain vague nu, on sait très bien qu'il y a une flore qui va venir l'envahir, puis des espèces qui vont venir l'envahir. À Bruxelles, il y a un truc rigolo comme ça, c'est le Marais-Vils. Le Marais-Vils, c'est dans une ancienne brasserie industrielle. Il va y avoir des travaux, puis en fait, les travaux ont commencé, et sur un sol qui était déjà complètement bétonné, ils ont percé la nappe est remontée. Et ils ont créé un marais accidentellement. Et la faune qui s'y développe est extraordinaire. Il y a une flore géniale, tout ça, dans une usine. Je vous invite à aller voir. Est-ce qu'il crée des problèmes pas possibles avec la collectivité? Parce que d'un côté, il y a les écolos qui disent « on touche à rien ». La ville qui dit « on manque de place pour faire des logements ». Ce qui est faux, comme dans toutes les grandes villes, en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de logements vacants et de bâtiments qui pourraient être réhabilités en logements. Mais voilà, juste la preuve que la seule intervention de l'homme pour faire cette merveille, ça a été de faire un trou et de rater son coup.
Eve, j'ai l'impression que ça vous parle aussi, vous qui, à Bordeaux, on voit de plus en plus de jardins qui reviennent dans les cours d'école. On parlait du béton, parfois on creuse un trou et on a du bol, mais parfois il faut le réinvestir, le béton, il faut remettre du verre.
Oui, alors effectivement, nous, on a une attention particulière dans la politique qu'on met en place pour les enfants, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est eux qui sont tout est en germe chez eux, et donc il faut qu'ils développent ce lien aux plantes, qu'ils les connaissent, qu'ils les pratiquent, qu'elles soient près d'eux et qu'ils soient finalement élevés à leur contact. Donc effectivement, on a ce grand plan de végétalisation de toutes les cours d'école et aussi d'encourager effectivement les potagers, hein, pour qu'effectivement les enfants puissent savoir comment pousse ce qu'ils mangent, ce qui est dans leur assiette. Parce que finalement, c'est quelque chose d'essentiel. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, autrefois, il y avait beaucoup plus de... Les familles habitaient beaucoup plus à la campagne. Donc, c'était une connaissance quelque part, je dirais, partagée, des éléments qu'on n'avait pas forcément besoin d'apprendre. Mais avec l'urbanisation, le fait qu'il y a de plus en plus finalement, de familles qui vivent en ville, eh ben, on perd en fait cette connaissance, ce contact à la nature. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir encourager ça et puis aussi évidemment créer des îlots de fraîcheur en ville. Nous, on est Bordeaux, c'est quand même une ville très minérale. Enfin, il y a beaucoup de jardins privés, mais il y a quand même voilà, il y a vraiment un gros déficit. Il y fait très chaud. Par exemple, cet été, on a eu 4 vagues de chaleur, hein, de ouais. Très grande chaleur, canicule, avec des pointes à 43 degrés. Bah, c'est clair que on a besoin effectivement d'avoir de la végétation pour pouvoir se rafraîchir. Mais je pense que voilà cette connaissance qui vient de la proximité avec les plantes, avec les autres espèces vivantes, elle est essentielle pour vouloir la protéger. Et par exemple, une expérience qu'on avait faite quand on était justement à la COP21 avec différentes personnes qui étaient là, différents journalistes, scientifiques, activistes. On s'était rassemblés et puis on était une vingtaine et on s'était dit bah à quel moment, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a créé le déclic, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir, pour vous engager. Et on essayait en fait de voir s'il y avait des schémas en fait dans la vie, des choses qui faisaient qu'à un moment tu décides de vraiment t'engager, quoi. T'es plus spectateur passif, mais tu décides de devenir acteur ou actrice. Et en fait, en écoutant tous les récits de vie, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même cette connaissance enfant, cette relation enfant forte avec soit un lieu, soit un être vivant d'une autre espèce, quelque chose qui faisait que on avait cette conscience de la beauté de ce qui existe hors de nous en tant qu'espèce et de ce qui est en train de partir, de ce qui est en train de finalement disparaître. Et donc cet engagement, quand même, on voyait qu'il y avait que ça revenait quand même assez régulièrement. Donc je pense que tu ne protèges bien que ce que tu aimes. Ouais. Et finalement, nous, ce qu'on veut faire à Bordeaux, c'est vraiment créer cette interaction, cette connaissance que nos enfants ont, cette éducation, parce que c'est aussi le fait d'avoir effectivement un potager dans sa cour d'école, bah, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de découvrir, de connaître, et c'est... voilà.
Moi, ça me fait penser à... Alors, je suis peut-être un peu fataliste, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une perte de repères, une perte de culture, de culture générale même, de culture, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit la culture de notre monde, mais même une culture économique, une culture politique, la culture?
Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, dans La part cachée du monde, dans mon roman, à la fin, dans la cité libre, donc je vais pas forcément tout raconter, mais à la fin, il se retrouve dans un lieu où il y a différentes communautés qui existent dans ce roman. Et dans cette dernière communauté, ils ont au cœur de la cité une bibliothèque dans laquelle ils ont en fait gardé ils ont accumulé, collectionné et partagé tous les livres qui ont été écrits qui expliquent comment les autres espèces vivent. Voilà, c'est vraiment un lieu qui permet d'apprendre comment vit un loup, enfin toutes les plantes, les oiseaux. Et c'est une civilisation, il y a cette attention portée dans cette cité des habitants et des habitantes aux autres êtres vivants qui vivent autour d'eux et de finalement les connaître en fait. Et je pense que ça nous manque énormément aujourd'hui. C'est très peu enseigné. Moi, je suis mon père était photographe animalier, donc j'ai passé des heures assise à côté de lui à regarder les abeilles. Et c'est vrai que quand tu passes des heures assis à regarder une ruche, bah ça a l'air de rien, mais quelque part c'est l'attention que tu portes finalement à ce petit microcosme, tu commences à comprendre que finalement c'est hyper précieux, c'est une famille en fait, ils vivent plein de trucs, ils sont différents de nous, mais finalement ils ont un peu la même, c'est une famille quoi, c'est une, et je pense que ça te rend vraiment finalement conscient de l'autre, de l'altérité et de ce qui se passe autour de nous. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça le problème avec la biodiversité, c'est que comment tu veux expliquer la biodiversité? Déjà la biodiversité ça veut rien dire. Moi, j'ai travaillé pour l'Office français pour la biodiversité, hein, avant d'être élue. Ouais. C'est vrai que déjà, le mot biodiversité, ça ne parle pas, quoi. biodiversité, ça veut, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est invisible en plus.
Oui, je vous vois vous marrer là.
Non, mais c'est vraiment un gros problème parce qu'on a beaucoup intellectualisé tout ça. Et ouais. C'est vrai que dans le discours nos discours à nous, alors sans dire qu'on est des sachants, mais qui devons aborder ces sujets d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue intellectuel. Biodiversité, c'est un truc qu'on dit tout le temps, mais on parle à une grande partie de la population, ça reste quelque chose qui est très abstrait. Exactement comme je disais, on dit qu'on a perdu 90%, enfin 60%, 65%, 69% de la biodiversité. Ok, c'est quoi? Enfin, les gens ne se révoltent pas, par contre, ils vont signer 12 pétitions parce qu'il y a un panda qui a mal au dos.
Oui, c'est ça.
C'est pas par manque d'amour pour le vivant, c'est juste parce que c'est un terme totalement abstrait, c'est technocratique. Ouais. C'est comme quand on parle de résilience, c'est comme quand on parle de tout ça. On a besoin d'avoir des mots pour dire ce qu'on a besoin de dire entre nous. Mais il y a un moment où il faut qu'on réapprenne à s'adresser aux gens de façon un peu simple aussi.
Après, on a besoin aussi de se souvenir, si tant est qu'on l'ait appris un jour, l'importance du ver de terre, l'importance des tout petits insectes.
Et du platelminthe.
Et oui.
Et du platelminthe, le petit ver plat qui vient de l'autre bout du monde et qui est en train de dévorer nos lombriques ici, nos vers de terre qui sont en train de disparaître.
Mais c'est en ça que je dis que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème de culture générale. On a oublié, alors, on a oublié nos racines.
Alors je m'amuse beaucoup dans mon travail pour moi, pour pouvoir avoir des outils de communication meilleurs, pour essayer de faire de la pédagogie en partant vraiment de la base. En ce moment, je suis à fond dans les bouquins qui datent de 1830 à la première moitié du 20e siècle. Et quand on regarde les livres de classe autour des sujets de sciences naturelles, et ceux d'aujourd'hui, enfin, exactement, on a fait des générations de technocrates, en fait, au mieux des technocrates. Ceux qui vont avoir compris ce qu'ils ont appris vont devenir technocrates ou éventuellement scientifiques, peut-être, mais tous ceux qui sont au chemin, ils n'ont absolument rien compris de ce qu'on leur a dit. On parle de sujets qu'ils ne côtoient pas. Ils vont savoir bientôt déterminer, décrire la micro-forme d'un grain de pollen en disant tel grain de pollen c'est ça et tel grain de pollen c'est ça, sans savoir ce que c'est qu'une fleur. Et le pire, c'est que dans la communauté scientifique, les scientifiques rencontrent ça avec leurs étudiants. Ils ont des étudiants qui leur disent, s'il vous plaît, on ne peut pas les bêcher dans un coin qu'on voit ce que c'est que la Terre, quoi. Parce qu'ils sont complètement déconnectés. Donc, il faut repartir à zéro, effectivement. Les écoles, je participe tiens, notamment avec un collectif d'architectes qui s'appelle Apache, ça ne s'invente pas, hein, qui a la débétonisation d'une cour d'école actuellement. Il y a plein de gens qui font ça un peu partout. Mais c'est vrai qu'on a peur de tout aussi. Enfin, le on collectif qui est très, très dangereux. On fait cette débétonisation, il y a une conscience de la part de la collectivité que c'est important, et puis on a les parents d'élèves, certains instituts ou certains directeurs d'école qui disent « Ah ouais, mais alors attention, maintenant il va y avoir des cailloux !»« Ouais, et alors ?»« Ah non, mais il y a des enfants qui vont les manger, et puis la terre c'est sale, et puis ci et ça. » Enfin, quand ils se mangent la tronche par terre, là, sur le bitume, tu crois qu'ils se font pas mal. Il y a un moment où il faut aussi rappeler que c'est un peu normal pour un enfant d'apprendre en faisant des bêtises parfois, et que le problème, c'est que les parents qui vont faire un procès, c'est au directeur d'école qui vont le faire, et c'est pas qui va peut-être le faire au paysagiste derrière qui a débétonné la classe. Et certains n'osent pas faire les choses, notamment à cause de ça. Mais actuellement, la plupart des projets qui sont menés, qui sont un peu avant-gardistes dans ce sens-là, se font parfois contre la loi. On invente des procédés, la loi est en train d'évoluer au fur et à mesure que ça se fait, on commence à faire les méthodes belges enfin. Les Français avaient tendance à plutôt faire les lois de façon très compliquée pendant 30 ans avant qu'on puisse commencer à faire quelque chose, et les Belges avaient tendance à faire le truc, à dire bon, on va faire une loi qui permet de le faire.
On expérimente et on y va, il faut des
voilà, c'est ça. Fou, et là on commence à s'adapter à faire comme ça face à cette urgence qui est abominable.
Bon, moi j'ai plein de mots-clés, plein de questions qui se bousculent dans ma tête, donc on va juste faire toute petite respiration et on se retrouve juste après et ça sera plus clair. Il y a tellement de trucs à dire, Éric Lenoir, toujours dans cette émission Rendez-vous du futur, avec Éric Lenoir et Yves Gabriel de Mange. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Tiens, les forêts. Les forêts, on en a parlé, on en parle dans La part cachée du monde aux éditions de la Mer Salée. On a un président qui vient de lancer un plan forêt. D'ailleurs, le plan forêt est, ça, on ne peut pas l'inventer, il est dedans, il est dans le livre. Puisque dedans, il y a un personnage qui joue le président de la République française. Bon, il s'avère qu'il signe avec une grosse boîte d'agro-pharma, en gros, on va dire, pour mettre un plan, 1 milliard d'arbres plantés. Ça, c'est incroyable. Bon, 1 milliard d'arbres plantés, c'est bien, non, ou pas? On est dans le bon sens. Il faut des arbres, il faut planter des arbres. Alors, tout va bien, non, Ève?
Alors, dans la Part cachée du monde, effectivement, c'est comme ça que le livre démarre. Il y a donc le président de la France du Nord, puisque donc la France est coupée en deux. Hein, dans mon livre, ça se passe dans le futur, après une grave crise électrique, coupure d'électricité, qui a entraîné un certain nombre de crises politiques, économiques, voilà, qui fait que la France se retrouve coupée en deux.
Notamment avec une grosse crise avec un énorme pays à l'est.
Voilà, et la Russie se retrouve complètement, totalement coupée du reste de l'Europe dans le livre, donc.
Voilà. C'est un livre qui est sorti il y a en 2021.
Ouais, c'est ouais. Ça. Et donc du coup l'Europe, qui donc est coupée des ressources pétrolières qui viennent de la Russie, se trouve à fonctionner avec seulement les ressources qui viennent du Groenland, qui est exploité par le Danemark dans le livre. Et donc tu as tout le Nord qui fonctionne avec très peu de ressources, avec des ressources énergétiques qui sont toujours issues du pétrole, mais qu'elle gère de façon très millimétrée grâce à une sorte de Google écolo qui s'appelle Green Life. Et donc, ce Google écolo omniprésent signe au début de l'histoire, avec le président de la France du Nord, un plan 1 milliard d'arbres. Donc, plan forêt d'avenir, avec des arbres, c'est des arbres spéciaux, des arbres qui sont vachement résistants au réchauffement climatique, puisque donc on a le réchauffement climatique, avec des problèmes de forêt qui sont, et c'est ça un des problèmes du livre, c'est que effectivement les forêts ont du mal à s'adapter, sont malades, il y a beaucoup de forêts qui sont malades ou mortes, et donc là il dit, oui, voilà, avec ce nouvel arbre, nouvelle génération, plus de problèmes, voilà, on va avoir un milliard d'arbres vraiment résistants, et ça commence comme ça, donc 1 milliard d'arbres.
Donc là, ça c'est dans la Part cachée du monde. Je préfère préciser parce qu'effectivement, on est en train de le vivre, tout ce qui se passe, donc c'est assez glaçant. Encore qu'ils font un beau voyage après, les deux héros.
Ouais.
Ah pardon. Mais un livre qu'il faut lire. On a un président ici en France qui a lancé un plan forêt, donc en réaction, bien sûr, parce qu'on fait tout en réaction. Un plan forêt en réaction à tous les incendies, notamment dans notre chère Gironde. 1 milliard d'arbres, donc ça va dans le bon sens, non ?
Alors, moi, je suis assez. Je serais assez intéressée d'avoir.
J'aimerais bien avoir le regard d'Éric.
Mais c'est vrai qu'1 milliard d'arbres, tu ne peux pas dire 1 milliard d'arbres. Ça veut dire quoi, 1 milliard d'arbres ? C'est-à-dire qu'effectivement, dans le livre, par exemple, c'est des arbres qui sont tous la même espèce. Ouais. Si tu plantes que des arbres de la même espèce, est-ce que tu vas vraiment avoir un résultat vraiment intéressant ? Est-ce que tu vas créer recréer de la vraie biodiversité ? Est-ce que ça se fait comme ça en claquant des doigts ? Est-ce que planter 1 milliard d'arbres en même temps, oui, mais quels arbres est-ce qu'ils sont capables de travailler entre eux ? Est-ce qu'ils sont adaptés par rapport au milieu dans lequel ils vivent ? Et tout ça, en fait, on le sait pas, on le dit pas, et je pense que c'est 1 milliard d'arbres, ça veut rien dire, en fait. Oui, ça paraît intéressant de se dire qu'à un moment, on va effectivement recréer de la biodiversité grâce aux arbres, surtout qu'effectivement on en perd beaucoup comme on l'a vu. Mais la question c'est est-ce que c'est des chiffres, est-ce que c'est des nombres, est-ce que c'est du numérique, ou est-ce qu'il y a derrière toute une vision finalement de notre planète, de la manière dont on va recréer cette biodiversité qu'on détruit par ailleurs, et puis sachant qu'il faut aussi préserver ce qui existe déjà.
Oui, faut pas oublier tous les autres aussi. Eric, 1 milliard d'arbres, bon, allez.
C'est très très drôle. C'est une super blague. Sachant qu'actuellement en France, les pépinières forestières ne sont absolument pas en mesure de produire ces 1 milliard d'arbres. Ne serait-ce que ça. On n'est déjà pas en mesure de produire les 250 millions d'arbres qu'il faudrait pour refaire le plan précédent qui a été annoncé dans le plan de relance. On a rencontré avec un type qui s'appelle Maxime de Rostolan les représentants du plus gros producteur de plants forestiers en France. Ils n'ont pas des arbres. Ils ont perdu 30% de capacité de production ces dernières années parce qu'on a toujours moins demandé de plans forestiers. Donc les pépinières sont vraiment un domaine où ça va assez mal, qui est en train de remonter un peu la tête, notamment grâce à ces demandes. Mais on n'a pas ça. On n'a même plus les pépinières qu'on dit fruitières, celles qui produisent les graines pour pouvoir faire ces arbres qu'on va planter après. Donc faut reconstruire l'outil, en fait. Donc ouais. Ça, c'est bien, on peut faire une annonce. 1 milliard, on va les avoir quand ?
Alors moi, je...
En plus.
clairement, par exemple, nous, en Gironde, bon, on a eu des très gros incendies cet été. Et donc là, on est dans l'après. Et clairement, en tant qu'élu, on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit, comment on doit replanter maintenant que effectivement ces forêts ont été détruites. Et on voit qu'on a deux types de forêts très très différentes qui ont été touchées. Donc la forêt de la Teste, qui est une forêt très ancienne où il y a énormément de plantes de d'arbres différents. Et puis on a la forêt de l'Andiras, qui est une forêt beaucoup plus, on va dire agricole, qui est vraiment avec des espèces beaucoup moins différentes, beaucoup moins diversifiées. Et donc, ça va être intéressant de voir finalement comment les deux finalement forêts...
voler et s'en remettre.
Voilà, c'est ça. Et je pense, et là, ce qu'on est en train de voir, déjà quelques semaines, quelques mois après la catastrophe, on voit que la forêt de la Teste, finalement, s'en sort beaucoup mieux, en fait, que la forêt de l'Andiras.
D'accord.
Donc ça c'est quelque part c'est un enseignement, c'est intéressant d'observer ce qui se joue, ce qui se passe pour finalement faire nos plans pour l'avenir.
L'une des choses intéressantes avec ces cochonneries de réseaux sociaux comme celui de Mark Zuckerberg, c'est que ça permet d'avoir des échanges avec les gens. Et quand je fais une publication à propos de la forêt, en général, je me prends des volets de bois vert, justement, de pas mal de personnes. Et notamment, quand j'ai commencé à dire qu'il fallait remettre du bois mort, enfin, qu'il fallait laisser les forêts reproduire du bois mort pour éviter les méga-feux. Et alors, on dit n'importe quoi. La collectivité demande de virer ce qu'on appelle les chablis, c'est-à-dire tout le bois mort qui est tombé, abandonné sur place, qui n'est pas exploité. Parce que c'est un combustible important. Et ça fait se propager les incendies beaucoup plus vite. C'est une réalité. C'est une réalité. Le bois mort des chablis accentue la vitesse de propagation des feux. Plus il y a de chablis, plus les feux se propagent vite. Mais, au-delà d'un certain seuil, la courbe retombe et ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que si on a beaucoup de bois mort, eh ben ce bois mort va devenir une éponge, va garder de l'humidité, va accueillir un nombre d'espèces colossal. Il y a des chiffres comme ça qui sont assez rigolos. Je vais encore donner des chiffres, c'est un peu casse-pied, mais bon, c'est pas grave. L'Office national des forêts suisses, enfin, c'est pas fédéral des forêts suisses, je crois que c'est comme ça, demande d'avoir au moins 25 tonnes par hectare de forêt de bois mort. En France, c'est la moyenne haute quand on a ça.
D'accord.
Et ce même Office des forêts suisses dit qu'il faudrait arriver à 50% de bois mort, à 50 tonnes, pardon, de bois mort à l'hectare, en disant qu'un certain nombre d'espèces animales n'arrivent pas tant qu'on n'a pas 100 tonnes par hectare de bois mort. Et que dans tout le cycle de la vie de la forêt, en fait, plus on a de la diversité là encore, plus les matières vont se dégrader, vont se transformer. Si vous avez beaucoup de bois mort, beaucoup d'humidité et les insectes qui vont dégrader ce bois mort à la bonne vitesse, vous avez des champignons qui vont se développer dessus. Le champignon, alors on sait aujourd'hui que les champignons servent à faire communiquer les arbres entre eux, mais sont aussi des espaces de séquestration du CO2 absolument considérable et de l'humidité. Et tout ça, bah tiens, forêt, la réserve forestière de la Massane, encore dans les Pyrénées-Orientales, qui est un site extraordinaire, qui est certainement le plus étudié au monde en termes de forêt, qui a fait l'objet de plus d'études au monde. J'y étais à la fin de l'été, fin août, après une période de sécheresse comme jamais connue dans le coin, etc. C'est partout, il y a une petite rivière qui passe avec ce qu'elle devrait pas être, presque rien, à travers les Pyrénées. Donc on imagine ce que ça peut être là où il n'y a pas de montagne, n'est-ce pas? Et là, on voit un gros arbre mort. Bon, il est mort, hein, c'est triste, c'est un vieux être. Sauf que dans le bois mort, il y a un trou et on voit de l'eau qui coule. C'est juste la matière organique qui a été décomposée grâce à la présence d'un petit cétoine, un petit scarabée qui s'appelle le pic prune, qui n'apparaît pas s'il n'y a pas des arbres morts d'un certain diamètre, qui peut décomposer l'intérieur et qui a transformé l'intérieur en éponge et qui fait que cet arbre va donner de l'eau au reste de la forêt. Et que lui, il ne va pas flamber parce qu'il est plein d'eau.
Mais la conclusion de ça, ça veut dire qu'il faut que tout le monde se parle et qu'on écoute les praticiens?
Alors, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il faut déterminer ce qu'on fait du milieu. Si c'est une forêt de rendement avant tout, on se retrouve avec des forêts monospécifiques, on va faire du pain des Landes, c'est bien le pain des Landes, tiens, et si on plante autre chose. Non, on plante du pain des Landes parce que c'est bien le pain des Landes. Okay. Ouais, mais enfin, il n'y a plus rien d'autre. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bien
parce le pain des Landes. Parce qu'on veut exploiter, parce qu'on a un besoin.
Et donc là, on dit, pour exploiter facilement, il faut que ce soit facile à entretenir. Donc la solution, c'est pas de laisser du bois mort, c'est de dire, on vire les chablis parce que ça, on peut l'industrialiser. Ça, on peut le mécaniser. C'est facile. Ça, on peut toujours continuer à calculer combien on fait d'arbres à l'hectare, combien on va faire de bois, combien on va produire. Bon, tant pis si les pommes de pin, elles explosent et puis elles vont propager des incendies 50 mètres plus loin à chaque fois qu'il y en a une qui part parce que l'arbre y pète. C'est pas grave. Il pourrait y avoir des feuillus. Il y a eu des feuillus dans cette région autrefois. Il y en a eu. D'ailleurs, on voit sur les forêts anciennes, il n'y a pas que du pin des Landes. Ça a fait la grosse, grosse, grosse différence. La diversité et puis ce qu'on appelle la forêt en libre évolution, qui sont des modalités d'exploitation de la forêt qui n'ont absolument rien à voir. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une filière bois qui se vante de vouloir encore dynamiser le marché en produisant toujours plus de bois, en disant c'est pas normal que les Allemands, avec moins de forêt, produisent plus de bois que nous, donc on va en produire encore plus. Ce qui nous amène là. On va même pas parler du sujet de l'épicéa, c'est simple. L'épicéa, je crois que c'est 80% de ce qui est coupé actuellement est coupé mort. En France, c'est ça.
Je comprends pas.
C'est-à-dire que normalement, on abat un arbre quand il est vert. Hein. Il arrive à terme. Okay, ça fait maintenant. En plus, on a réduit les durées obligatoires avant de les couper. Donc c'est bon. Il arrive à l'âge, on le coupe et puis ça repoussera derrière autre chose, etc. Là, en fait, ils sont en train de mourir massivement du fait d'attaques de scolytes, qui sont des petits insectes, mais qui sont... pourquoi est-ce qu'ils attaquent? Parce qu'on a planté ces arbres dans des régions auxquelles ils n'étaient pas adaptés, parce qu'on a un réchauffement climatique qui vient faiblir les arbres. Il ne faut pas oublier, quand on a un hiver doux, en fait, on empêche les arbres de se reposer. Ils ont besoin d'un temps de repos hivernal qu'ils ne trouvent plus, par exemple.
C'est une certaine hibernation aussi de l'arbre.
Ils en ont besoin, sinon on nous prive de sommeil, on va pas bien. Hein. Au bout d'un moment, on fait un peu n'importe quoi et on attrape toutes les maladies du monde. Bon, c'est un peu le même cas pour eux. Le fait qu'on plante qu'une seule espèce, quand il y a un parasite, il se propage comme un malade, parce qu'il y a de quoi bouffer. Comme on a fait quelque chose qui était très très pauvre en termes de diversité, on a perdu une bonne partie des auxiliaires, c'est-à-dire les animaux qui nous sont utiles à nous les humains, en protégeant nos ressources, ils ne sont plus là. Ceux qui mangeraient le scolyte, il n'y en a presque plus, notamment parce qu'ils vivent dans des vieux arbres morts qui sont assez gros, en fait. Dans certains cas, par exemple, quand il y en a. Et il y a tout un cumul, en fait, de mauvaises pratiques qui ont amené là. Et aujourd'hui, on a un massif d'épicéa global en France qui est moribond, qui meurt à une vitesse absolument incroyable, quoi.
Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est sans doute très complémentaire, c'est le sujet des projets alimentaires à l'échelle des territoires. Vous, Ève, vous êtes dans vos attributions, il y a la résilience alimentaire. Vous, Eric, vous travaillez sur des projets alimentaires à l'échelle d'un territoire. On commence par quoi quand on bosse sur la résilience alimentaire, quand on veut mettre en place un projet alimentaire sur un territoire, Ève?
Alors nous, à Bordeaux, on a commencé par faire un petit peu un diagnostic pour savoir d'où on partait, pour savoir comment on allait pouvoir construire cette politique alimentaire. À la ville de Bordeaux, c'était une délégation qui n'existait pas avant. Donc on est parti effectivement, alors on partait de loin puisqu'on a 7 jours d'autonomie alimentaire à la métropole bordelaise, donc autant dire très très peu.
Paris c'est 2 jours, 3 jours.
Donc voilà, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on a la capacité de faire plus? Qu'est-ce qu'on peut faire nous à Bordeaux? Puis surtout, sur les territoires de la ville de Bordeaux, qui est là? Qui est répond présent? Qui peut nous aider? Qui est déjà en action, à l'œuvre, etc. Donc, en fait, la première année, tout simplement, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et puis on est allé voir dans tous les quartiers finalement toutes les associations qui étaient à l'œuvre, tous ceux qui se mobilisaient autour de cette question de la résilience alimentaire. Et puis en parallèle, donc, on a fait ce diagnostic. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que une ville comme Bordeaux, on a très peu de terrain en fait, globalement au niveau des terres agricoles, à part les 4 hectares que j'ai mentionnés tout à l'heure. Bon, c'est pas les seuls, c'est pas les seules ressources qu'on a, mais on est quand même pas hyper riche en terrain agricole. Donc, sauf si on était très contraint, comme à Cuba, où d'un seul coup t'es obligé, t'as pas le choix, où là on pourrait cultiver. On imagine que forcé et contraint, on cultiverait partout, dans tous les espaces, sur les toits, et qu'on arriverait finalement à augmenter notre capacité nourricière de façon très importante.
C'est pas mal ça.
Hein, ça serait pas... Non mais Cuba, ils le font très bien d'ailleurs, c'est assez génial, ça a totalement transformé la ville. Donc nous, on pourrait imaginer de le faire si chacun se remettait à cultiver sur son balcon, sur les terrasses, partout. Bon, là, il n'y a pas forcément la volonté parce qu'on n'est pas contraint. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a énormément de jardins privés qui aujourd'hui sont des jardins d'ornement. Il n'y a pas de volonté vraiment nourricière. Nous, on s'est fixé comme objectif à la ville de Bordeaux qui est un objectif assez ambitieux, de produire de 10% de notre capacité, enfin de ce dont on a besoin pour s'alimenter, pour finalement remplir nos besoins en fruits et légumes. Ce qui est énorme, hein. Enfin, c'est assez ambitieux. Mais en réalité, on s'est rendu compte que, bien sûr, la ville de Bordeaux ne peut pas travailler toute seule. Donc, en fait, la résilience alimentaire d'une ville comme Bordeaux, la résilience alimentaire, ça se pense à l'échelle d'un territoire entier, d'une région entière. Donc, c'est plutôt à l'échelle de la région qu'il faut la penser. Donc, c'est tout ce qui est effectivement les liens... avec tout ce qui existe à la fois sur le département de la Gironde, mais aussi, bien sûr, au niveau de la région tout entière. Donc, ça veut dire travailler sur des outils comme, par exemple, le MIN, le marché d'intérêt national, qui est notre grand marché de gros, où là, effectivement, on va développer toutes les collaborations qui peuvent exister, faire en sorte que de plus en plus de petits producteurs puissent accéder, finalement, au cœur d'une ville comme Bordeaux. On a peut-être grande chance d'avoir des outils comme celui-là, mais c'est aussi effectivement encourager notre cuisine centrale à travailler sur des filières commandées auprès de petits producteurs qui sont vraiment situés pas loin. Donc là, effectivement, on a un vrai impact puisque c'est 23 000 repas par jour. Donc ça c'est quelque chose d'effectivement sur lequel on peut jouer. Et puis, c'est finalement travailler avec tous ceux qui sont déjà à l'œuvre et faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils se connaissent et qu'ils puissent finalement démultiplier leurs actions. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait. On se rend bien compte que nous, villes, là où on peut vraiment le plus agir, c'est sur les habitudes en fait alimentaires, puisque finalement, ce qu'on mange... ça va produire plus ou moins ça va avoir un impact carbone plus ou moins important. Et pour le coup, les villes, elles ont la main là-dessus. Donc, elles ont vraiment la main sur la manière dont on va éduquer, dont on va sensibiliser, dont on va pouvoir finalement entraîner une dynamique à l'échelle de toute la ville pour justement faire cette bascule d'un régime plutôt assez carné, hein, à Bordeaux, vers un régime beaucoup plus végétal, tout en gardant finalement le plaisir de manger, mais en allant vers quelque chose qui va avoir un vrai impact et qu'on va chercher à mesurer en fait dans le temps du mandat, parce que c'est court un mandat en fait.
Et c'est ça, on est tous dans des logiques d'échelle aussi, mandat court et impact long terme quand même autour de l'alimentaire. Peut-être un complément sur l'idée de projet alimentaire à l'échelle d'un territoire.
Alors moi je suis un petit joueur, hein, rien à voir avec ça. En plus je participe à des projets, c'est pas moi qui les monte, ce qui est plutôt différent. À l'échelle des petites collectivités, c'est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre des politiques comme ça, parce que justement les moyens sont faibles, donc il y a besoin de se regrouper, il y a besoin d'être très stratège. Par exemple, au niveau de Lyon, il y a eu une stratégie qui a été très intéressante, c'est quand ils se sont rendus compte, enfin, il y a un élu en l'occurrence, il s'appelle Nicolas Sauret, qui s'est rendu compte qu'il y avait une résilience alimentaire très 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 faible sur un territoire qui est pourtant très majoritairement agricole, parce qu'on produisait du colza, de l'orge, enfin des trucs qui ne servent pas trop aux humains, à part pour faire des agro carburant. Et la technique, ça a été de venir voir la ville de Paris en disant, bah, écoutez, on est dans votre périmètre de production locale, vous pourrez faire du local chez nous, on va conclure un partenariat sur 6 ans et vous allez nous acheter des denrées et nous, on va s'engager à produire des denrées. Ce qui fait que ça permet de varier la proposition en termes agricoles, ouais, sur notre secteur, que les agriculteurs ne soient pas perdants non plus, parce que c'est difficile de changer de modèle pour un agriculteur. Et en parallèle, voilà, on a des petites villes comme Joigny qui préemptent sur toutes les terres agricoles qui se libèrent sur la collectivité. J'ai un exemple avec une toute petite commune aussi que j'accompagne dans différents projets, où là, bah, ça va passer par la plantation d'arbres fruitiers par-ci, par-là, et puis d'incitation. Juste pour revenir sur l'agriculture intra-urbaine, qui nourrit l'essentiel de l'humanité à l'échelle globale. Si on parle de nombre d'êtres humains, hein, évidemment, dans les très grandes villes, des pays industriels, c'est pas comme ça, mais à l'échelle mondiale, 70%, je crois, de l'agriculture nourricière est produite en ville.
Donc comme à Cuba, en gros, comme avec des potagers partout.
Bah, alors, c'est pas des potagers c'est un truc qu'il faut intégrer, c'est que c'est beaucoup d'élevage. Et ça, c'est compliqué à intégrer pour nous, parce que quand vous allez en Afrique, en Égypte, n'importe quoi, ça va être, même en Chine, ça va être des lapins, ça va être des volailles, beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup, qui vont nourrir les gens. Donc effectivement, 70% des calories produites, ça, on en produit beaucoup plus avec un animal. Et on peut aller chercher des trucs en périphérie, on va utiliser les restes, les déchets. Le Caire, ça a été une catastrophe quand les frères musulmans sont passés à avoir un peu trop de pouvoir, parce qu'on a arrêté de mettre des porcs dans les rues. Ils se retrouvaient avec un empilement de déchets qu'ils n'avaient pas imaginé, en fait. C'est assez drôle. Donc, ça montre qu'il y a quand même des interactions qui sont très, très, très anciennes, qui ont été oubliées, et que produire sa nourriture en ville, c'est pas seulement les produits technologiques qu'on nous propose aujourd'hui avec des jardins verticaux, des serres gigantesques et des machins comme ça, ou des cultures sur des toitures. Il y a un moment, on arrive à toucher les limites, mais c'est peut-être aussi d'intégrer d'autres options, sachant qu'effectivement, on a des objectifs CO2. Le bon avantage, c'est qu'on ne va pas foutre des vaches en ville. Ça, c'est quand même les vaches qui posent le plus de problèmes. Enfin, non, le pire, c'est les saumons. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Ça, c'est les saumons, oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Ça sera... On va en faire des émissions autour de tout ça. On le voit, ces projets alimentaires, ces projets de résilience alimentaire, c'est beaucoup de sensibilisation, il faut créer un enthousiasme, il faut créer des liens, il faut que les territoires se parlent entre eux. Je vous propose de faire une petite pause. Une petite pause, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette petite pause? Eh bien, on va faire entrer l'ETT, vous allez voir, avec Ancé de Corinthe. Et on se retrouve après, surprise.
Nous sommes le 7 mai 48. Au cœur de la quiétude d'une journée printanière dans la merveilleuse cité montalbanaise, la famille de Pompignan s'apprête à accueillir un nouveau membre dont elle se serait bien passée. Le marquis de Pompignan a fauté avec une roturière et de son union illégitime naît Marie-Gouze. On ne le sait pas encore, mais cette petite Marie à la bouille d'ange deviendra plus tard l'illustre Olympe de Gouges.
Marie, ouais, bien sûr, tout le monde la connaît dans le village. Sacrément têtue, curieuse comme tout, elle aimait lire, elle passait son temps à lire, dévorer. Bon, c'était des fadaises, c'était pas très intéressant, mais c'était les fadaises de la Bibliothèque Bleue, si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que ça manquait un peu de relief, mais on a senti quand même que ça avait changé quand elle avait quitté Montauban, quand elle montait à Paris, quand elle montait à la capitale, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est à Paris que l'on retrouve Olympe de Gouges. En 1773, elle suit l'héritier de la Compagnie royale des transports militaires, Jacques Biétrix de Rosières. Olympe sera confortablement installée rue des Fossoyeurs et entretenue par son amant et mécène. Ambitieuse, elle joue alors de ses charmes pour pénétrer des cercles très fermés.
Je trouve ça dégueulasse et puant de sans cesse lui renvoyer cette image de femme dépravée alors qu'en réalité, elle est simplement en avance sur son temps. Elle s'intéresse à énormément de choses de son époque, à tous les débats de société et surtout, elle veut y prendre part. C'est ça, elle est fondamentalement libre. Ma question, c'est est-ce qu'on ferait le même procès à un homme ?
Madame de Gouges est une harpie, une hyène, une succube tout au plus. Si au moins, elle avait eu l'indécence de se contenter... Des choses qui sied si bien aux femmes de petite vertu passent encore. Mais qui était-elle pour s'occuper d'affaires sérieuses ?
Ces choses sérieuses, ce sont des choses politiques. Au cœur de ces années 80, Olympe multiplie ses engagements. À la Comédie-Française, elle signe une pièce contre l'esclavage. Jugée scandaleuse par une grande partie du public, elle sera déprogrammée après seulement 3 représentations. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reçoit un accueil pour le moins mitigé de Versailles. Girondine, en rupture de ban avec le club des Jacobins, Olympe est ouvertement hostile à la Convention, et notamment aux montagnards Robespierre et Marat. Son entêtement à défendre l'idée d'une monarchie constitutionnelle lui vaut d'être arrêté le 2 Thermidor de l'an 1.
La procédure a été respectée, le procès a été tout à fait équitable et Madame de Gouges méritait amplement son châtiment. On ne peut pas jouer le jeu des dissensions politiques sans passer à la caisse, si je peux m'exprimer un petit peu trivialement. En tout cas, Madame de Gouges était une ennemie du peuple, une ennemie de la patrie et pire encore, une ennemie de la République.
C'est faux. Olympe était une citoyenne et surtout elle était amoureuse de sa patrie. Mais plus que tout, rien. Je le dis, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, rien ne peut justifier qu'on prenne une vie humaine. En tout cas, à ses yeux. Alors oui, c'est vrai, elle a dénoncé l'assassinat dans les spots, mais c'est parce que avant d'être roi, Louis XVI, c'est surtout un être humain. Encore une fois, on en revient à cette valeur qu'on donne à la vie humaine. Alors le châtiment qui lui a été réservé, il était absolument odieux. Olympe le savait, et pourtant son courage lui a toujours dicté sa rectitude. Et elle en est morte. Olympe est morte de tempérance. Elle est morte de nuance. Mais c'est quand même grave, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Elle est morte de nuance.
Merci Ancée de Corinthe. Merci beaucoup Ancée de Corinthe. Toujours dans ce rendez-vous des futurs avec Ève de Mange et puis avec Éric Lenoir. Alors là, ce que ça souligne, Ancée de Corinthe, il souligne peut-être l'importance de multiplier tous les récits pour nous faire changer un petit peu les choses, au-delà du fait qu'il souligne quand même que oui, il faut se souvenir d'Olympe de Gouges, qui était un personnage clé de notre histoire. Ce que je veux en venir à l'imaginaire, je veux en venir à votre bouquin, La part cachée du monde, Ève. C'est important de créer le plus possible de récits différents. C'est important de changer notre vision du monde, quoi, en gros.
Je pense que c'est essentiel et qu'aujourd'hui, on manque vraiment de récits qui ne soient pas des dystopies. Alors, je dis ça, en même temps, ce roman démarre comme une dystopie, puisque, effectivement, au démarrage de ce projet, il y avait cette inquiétude que je pouvais avoir par rapport à ce que je lisais des rapports du GIEC. Donc, j'ai construit, effectivement, une situation de départ dans laquelle j'explorais quand même, on va dire, un des scénarios. Donc, ça se passe, je donne pas de date, mais ça se passe après, à partir de 2050, où, en gros, c'est un peu la période qui s'ouvre. On ne sait pas, qui dépend en gros de nos actions présentes et où on ne sait pas finalement ce qui va advenir. Il y a plusieurs scénarios possibles. Et donc je traverse cette situation difficile pour aller vers une forme d'utopie. Et explorer finalement à travers différentes communautés. Donc, je parlais tout à l'heure de la France du Nord et de la France du Sud. Donc, ils traversent, ils quittent la France du Nord. Donc, mes deux héros, qui sont deux adolescents qui perdent leur mère au début du livre, qui est une botaniste, et ils décident donc plutôt, elle leur donne un livre de botanique en leur disant écoutez, ce livre, faut que vous le donniez à votre grand-mère, qui ne connaissent pas, ils n'ont jamais rencontré cette grand-mère auparavant, mais elle leur dit c'est hyper important, elle habite dans la France du Sud, faut que vous lui donniez ce livre. Donc ils traversent, et en fait dans la France du Sud, il n'y a pas les ressources énergétiques de la France du Nord. Donc c'est des communautés en fait qui se sont construites avec très peu de ressources énergétiques, qui ont fait un petit peu avec les moyens du bord. Et chaque communauté est différente, fonctionne avec finalement des règles différentes, des technologies différentes, mais aussi des croyances différentes. Et donc, ils font l'expérience de ces différentes rencontres et ils font l'expérience de communautés finalement qui ont appris à vivre des vies harmonieuses ensemble. Et l'idée, c'était un peu finalement d'explorer un avenir dans lequel il y a beaucoup moins de confort, bien sûr, puisque on n'a pas tout le confort qu'on a actuellement, mais qui en même temps sont intéressants. Des communautés dans lesquelles, effectivement, on a plaisir à être ensemble, plaisir à vivre, plaisir à manger, à faire tout ce qu'on aime faire, et où finalement il y a une vraie entraide, il y a une vraie projection dans l'avenir par rapport à une vision qu'ils ont, par rapport à des combats qu'ils mènent. Notamment, il y a des cœur, par exemple, qui mène un combat très important. Il y a donc dans la Cité Libre, ils mènent d'autres combats. Et ces communautés dont certains se connaissent, qui sont parfois en lien, finalement, elles ensemble, elles défendent une autre vision de l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la science-fiction, on a beaucoup exploré la dystopie avec une vision assez noire, en fait, souvent, et assez déprimante, qui n'encourage pas à l'action. C'est-à-dire que tu dis, bon, globalement, tout est foutu. Et on entend souvent, moi, je l'entends souvent dire, des proches qui me disent, non, mais de toute façon, c'est foutu. Et alors que non, en fait. Justement, c'est le moment où il faut y aller. Et plus on aura de récits qui nous montrent d'autres manières de vivre avec des conditions matérielles, techniques différentes, mais qui sont réussies, plus quelque part ça poussera à l'action, ça donnera envie à notre génération et celle de nos enfants de justement d'y aller, quoi.
Alors c'est compliqué de, de trop parler, de trop rentrer dans le livre, même si on aimerait effectivement. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Vraiment, je le dis comme je le pense. La part cachée du monde aux éditions de la Mer Salée. Mais tout démarre quand même dans un climat relativement violent. Et là, je me tourne vers Éric Lenoir. Non pas pour parler d'un imaginaire violent, mais en vous suivant, en vous lisant, on a quand même, vous suivez particulièrement les phénomènes des ZAD, les phénomènes des engagements un petit peu, bah, ça passe par une certaine violence, mais une violence citoyenne qui peut être tout à fait paisible si tant est qu'on la laisse s'exprimer. On a l'impression que pour vous, c'est nécessaire. À un moment, c'est comme faire table rase de ce qu'il y a pour changer.
Alors, on n'y arrivera pas par ce biais.
Ouais.
Soyons clairs.
C'est bien de le dire.
C'est très, très important de le dire. L'essentiel est de construire ensemble. Enfin, tout ce qu'on arrivera à construire ensemble sera toujours mieux que tout ce qu'on aura détruit pour éviter un truc. En fait, l'objectif de toutes ces ZAD et ce qui peut y ressembler de la plupart des mouvements de lutte à l'heure actuelle, c'est juste de freiner l'aggravation de la situation. On en est là. On a une situation qui est extrêmement grave. Les politiques publiques, sauf exception, sont quand même pas terribles. Sont tout simplement indignes. Indignes et irresponsables, soyons clairs, d'une façon générale. C'est une vision qui est éculée, qui vise une croissance verte, qui est une aberration absolue d'un point de vue écologique, d'un point de vue même enfin, la plus pure logique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'a pas les ressources en métaux pour mener la politique de transition qu'on nous annonce. On n'a pas les métaux. On ne les aura pas. Ou au prix de destruction qui sont tels qu'on va aggraver tous les autres problèmes qu'on a déjà. Donc, arrêtons. Lever le pied, c'est déjà une super méthode. Et c'est pas pour rien qu'ils vont dans le sud, là où il n'y a pas d'énergie, pour trouver des solutions. Hein. Enfin, moi, je dis ça au passage. Le fait est que, oui, effectivement, il y a un moment où faut... Je n'irai pas prendre les armes, parce que j'ai horreur de cette expression-là, mais faut savoir s'opposer. Faut savoir faire corps et être physiquement dans quelque chose qui montre qu'on est engagé, oui. Alors, c'est très, très utile d'aller ramasser les déchets, de faire la soupe populaire pour plein d'autres gens. C'est au moins aussi utile. Mais aujourd'hui, bah, quand j'apprends que la ZAD de la Clusaz, parce qu'à la Clusaz, en montagne, là, on s'apprêtait encore à refaire une retenue collinaire, alors qu'on sait qu'on manque d'eau partout, il y a des problèmes de neige, etc., pour faire de la neige artificielle, pour que les gens puissent aller skier, mais merde, quoi. On habite sur quelle planète? Enfin, on a quoi dans le crâne pour prendre des décisions pareilles? Et parce qu'il y a eu une ZAD, parce qu'il y a eu des mobilisations citoyennes, parce qu'il y a eu vraiment un combat, ça s'appelle comme ça, pacifique, hein. Les gens n'étaient pas là pour la guerre, ils étaient là pour protéger. Eh bien, ça y est, ça a été abandonné. C'est des choses qui marchent un petit peu. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était moche, c'était truc, les gens se sont battus, etc. Sauf que là, on aurait été content à l'époque du Covid d'avoir un chantier d'aéroport là, qui venait alors que tout s'est arrêté. À peu près tous les chantiers qui ont été commencés à la période où devait se commencer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont été abandonnés dans le monde entier. Voilà, on aurait eu tout dézingué sans avoir le bénéfice de ce que c'était censé apporter.
Et pour cela, il faut une mobilisation citoyenne et des choix conscients aussi, Eve.
Non, mais je pense qu'on a besoin des deux. Hein. Clairement, aujourd'hui, on est à une époque où le combat, il est absolument indispensable. On ne peut pas gagner la bataille sans combat. Et on le voit bien, vraiment des visions d'avenir qui s'opposent. Clairement, donc c'est là où quelque part projeter une vision qui est assez conceptuelle, mais finalement qui permet quand même de se dire c'est possible, de repousser les limites de nos imaginaires, de faire en sorte que ce qui nous paraissait complètement dingue, en fait, bah on se dit bah pourquoi pas. Ça peut permettre effectivement de faire avancer les choses, mais à un moment, c'est vrai que protéger ce qui est menacé aujourd'hui, à l'époque où on est, je pense qu'il y a absolument c'est essentiel que ces combats existent, quoi. Et je pense que les deux sont nécessaires. Le combat pour dire, et quand je dis le combat, ça peut être le combat physique, le combat aussi pacifique, mais aussi quelque part le combat politique. Et c'est clair que convaincre, défendre encore et encore, enfin moi j'avais pas mesuré avant de m'engager en politique, bon certes j'ai pas des ambitions nationales, mais quand même j'avais pas mesuré l'importance du mot combat. Dans le côté politique, combat politique, en fait, c'est un vrai combat. C'est-à-dire que quand tu es en train de discuter, tu es dans un échange, dans un hémicycle, tu as quelqu'un qui te contredit et qui finalement t'oppose une vision de l'avenir, de la vie qui est totalement irréaliste, il faut avoir les arguments pour le convaincre, pour lui dire non, c'est pas possible, on peut pas faire ça pour telle et telle raison. Et ça se gagne ces combats, ils se gagnent. C'est plein de petites batailles menées partout, quoi. Ça va pas, ça se gagne au niveau du gouvernement, mais ça se gagne aussi dans chaque ville. Ça se gagne dans l'entreprise. Quand à chaque fois que vous arrivez à convaincre quelqu'un d'un fait scientifique. Hein, aujourd'hui, je pense que voilà, on sait très bien tout ce qui se passe. On a les infos, donc c'est plus, on n'est plus à les remettre en question. Mais quand on arrive à convaincre, quand on arrive à faire bouger finalement les lignes dans la tête de la personne qu'on a en face, ben en fait, on a gagné et c'est un combat. Et aujourd'hui, les combats, ils sont mais multiples, quoi.
Quand vous avez une députée écolo qui se fait menacer physiquement en pleine réunion parce qu'elle elle porte des projets comme le fait de faire disparaître la crise des algues vertes en Bretagne, ça dit quelque chose. Les algues vertes en Bretagne, pour ceux qui ne connaissent pas, vous arrivez, vous avez un pan de littoral. Sur plusieurs kilomètres, ça produit des quantités d'algues phénoménales qui, quand elles arrivent sur le littoral, se décomposent en produisant des gaz toxiques. Il y a des gens qui meurent. Oui. Juste d'avoir respiré l'air qui est causé par les algues vertes. Mais il faut imaginer que toute la faune et la flore marine qui sont censées vivre là ne vivent plus. Pour régler le problème, on passe des bulldozers, des tracteurs sur les plages pour ramasser ça, en détruisant au passage tout ce qui vit sur les plages, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qui vivent sur les plages, qu'on les flingue déjà assez en jouant, etc. Et juste parce que ça remet en question un modèle économique qui est celui de on produit du porc et on le produit de cette façon-là, ayant cette quantité-là, eh ben, ça arrive à des menaces. Et oui, effectivement, c'est du combat. Et s'engager en politique pour des personnes, ça implique leur personne de façon physique. Physique.
Sur les algues vertes, il y a une enquête en BD, un roman graphique qui est fabuleux, que l'autrice me pardonne. J'ai oublié le nom de cette BD, mais bon, vous la trouvez, les algues vertes BD, vous trouvez. Et ça me fait penser qu'en fait, le pouvoir, tous les citoyens l'ont. On a quand même des. On a une carte bleue, on a une carte de bibliothèque, on a une carte d'électeur aussi. On peut peut-être s'en servir. Et puis, on a même un téléphone aussi pour créer du lien. Alors oui, il faut juste avoir la conscience que c'est plein de métaux rares, mais n'empêche, on peut changer le monde avec tout ça, ou pas.
C'est une bonne partie du problème, le téléphone, quand même. Le smartphone, c'est une bonne partie du problème.
S'il redevient un peu moins smart et plus téléphone, peut-être que c'est une partie du problème résolu.
Oui, alors, c'est vrai qu'on a une part quand même, c'est Carbon 4, je crois, qui disait que si, effectivement, on était au taquet, chaque individu était au taquet de ce qu'il pouvait faire, finalement, il y a 25% en fait qui est détenu de la part du problème de l'impact écologique qui est entre les mains des individus. Mais le truc, c'est que tu peux pas, quand effectivement tu utilises ta carte bleue, tu ne peux acheter que ce que tu as à portée de main. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'offre qui va bien, si autour de toi tu n'as pas finalement la possibilité de pouvoir, je prends par exemple l'exemple des transports. Oui. Tu vois, tu vas travailler, mettons, je sais pas, ton lieu de travail, t'es à la campagne et ton travail c'est à 25 ou 30 km de chez toi. T'es obligé de prendre ta voiture. Si t'as pas effectivement un système qui te permet de prendre le train ou de prendre un autre moyen de locomotion que la voiture, et surtout si économiquement t'as pas les moyens de d'acheter un véhicule électrique, en fait t'es coincé.
Mais là, est-ce que c'est pas la carte d'électeur qui compte du coup? Parce que oui. Il y a la commande publique, il y a les politiques qui flèchent les budgets, les investissements.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que. Mais le problème, c'est que souvent, il y a on vote une fois et après on se dit après quelque part je m'en remets finalement aux politiques, alors qu'en réalité la pression elle doit être tout le temps, elle doit être continue, quoi.
C'est un dialogue, effectivement. Le politique, il est élu, mais on doit continuer de dialoguer avec lui.
On peut continuer à dialoguer avec l'élu, encore faut-il savoir qui est l'électeur. On parlait du manque de culture environnementale, du manque de culture du vivant, de manque de culture sur tous les domaines dont on parle depuis le début de la discussion. Les électeurs qui votent, ils n'ont pas cette culture. Pour une très très grande majorité, c'est ce qui fait qu'on a des résultats qu'on connaît. S'ils avaient conscience, je peux dire que ça changerait certainement beaucoup, beaucoup le bulletin qu'ils mettent dans l'urne, s'ils mettent un bulletin dans l'urne. Mais s'ils arrêtent de voter, c'est pas pour rien non plus. Ouais. C'est parce qu'ils se sentent pas reconnus, il y a plein de choses. On prend 100 citoyens, on les acculture pendant quelques mois sur le réchauffement climatique, d'un seul coup, ils prennent toutes des décisions qu'ils n'auraient jamais prises par l'intermédiaire d'un candidat. Le problème, il est là. Moi, je peux pas dire qu'on peut se fier à la démocratie à carte d'électeur aujourd'hui. Non. Non. On en a la preuve. J'habite sur un territoire où, sur des petites communes, des gens ont voté à 80% pour le Rassemblement national. En pleine période de crise climatique, est-ce que c'était la priorité dans un endroit où il n'y a ni noir ni arabe parce qu'il n'y a pas de problème de cet ordre-là? Donc c'est carrément autre chose, c'était juste un rejet de la politique gouvernementale d'un point de vue général. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait d'un côté où on allait défendre l'écologie. C'est comme ça, parce que ne savent pas quels sont les enjeux, ils ne comprennent pas à quel moment on répond à une problématique, parce qu'ils ne savent pas quelles sont. Si un gamin n'a jamais caressé un animal, il ne sait pas ce que c'est qu'un animal. S'il ne sait pas ce que c'est que dans l'herbe de jouer dans l'herbe et qu'il a que du béton, enfin, c'est quoi son horizon ? En plus, un sujet dont on ne parle pas, mais on a toutes nos populations qui sont issues de l'immigration, avec des gens qui sont déjà déracinés, qui n'ont pas leur repère ici. Pourtant, des populations de paysans qui auraient pu nous apporter leur savoir. Quand vous les enfermez dans des blocs en béton, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont à transmettre ? Et c'est là qu'on a vraiment un travail en tant que citoyen, en tant qu'élu, en tant qu'éducation nationale, normalement, qui devrait compenser ce genre de choses aussi.
Les médias aussi sont. Mais on revient
on
à la culture.
On entre dans les trois dernières minutes, là, mais effectivement.
Non, mais on revient à la culture, c'est ce qu'on disait au début. Je pense que, effectivement, la connaissance de ce qui se joue, elle est hyper importante, elle est complètement fondamentale dans le fait de prendre des bonnes décisions, et même au niveau des, à tous les échelons, et même au niveau des élus. Moi, je suis souvent, je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui ont une sorte de vernis écologie, enfin de l'écologie. Ils ont entendu parler, certains ont lu des articles, au mieux ils ont lu effectivement peut-être les rapports du GIEC, mais vraiment une connaissance approfondie de tous les mécanismes qui sont en jeu, de toutes les solutions qui existent, etc. On n'a pas de formation en fait quand on est élu. C'est en fait on considère que finalement t'arrives avec ta formation, ton histoire avant, et quand t'es élu, on te dit pas à un moment il faudrait presque un kit de base de l'élu aujourd'hui où on t'apprends en fait, finalement, qu'est-ce voilà, c'est un peu la synthèse des rapports du GIEC, mais aussi de tous les rapports qui existent au niveau de l'effondrement de la biodiversité et des autres problématiques liées à finalement aux limites planétaires. Et puis les solutions qui existent, qui ont été explorées. Si déjà tu avais ça, ouais, tu serais quand même en capacité de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait dans les hémicycles quand on est élu, c'est en gros, on est en train d'essayer de faire de la pédagogie pour expliquer finalement ce qui se joue, etc. Et je vois, moi, je trouve qu'on fait trop de, parfois on s'oppose d'une vision simpliste. On est sur des préjugés, quoi. On n'est pas sur le fond du débat. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le niveau de connaissance nécessaire pour dépasser finalement les préjugés, et que trop souvent on va sur des récits simplistes qui font que le Rassemblement national, enfin l'extrême droite, l'extrême gauche. Vont sortir parce que eux ils sont hyper simplistes dans leur récit. Hein.
On devrait tous avoir ce kit de base, que ce soit les élus ou les citoyens, sauf que pour appréhender ce kit de base, il faut avoir un autre kit de base, et peut-être que c'est ça qui s'appelle l'éducation, ou la culture générale, ou une certaine ouverture.
La sensibilité aussi.
La sensibilité. De toute façon, je sens qu'on pourrait faire des heures et des heures sur ces sujets. Là, comme ça, en quelques secondes, une pépite à partager, une action, un coup de cœur, un truc. Qu'est-ce qui vous viendrait, Eve ? Qu'est-ce qui vous viendrait, Eric ? Un petit coup de cœur, une pépite à partager.
Un petit coup de cœur, une pépite. Ah ouais, mais non, j'ai trop de trucs négatifs. Attends, d'abord. Qui m'énerve en ce moment. Petit coup de cœur, je sais pas, le nombre incommensurable de personnes qui commencent à partager leur jardin avec d'autres. Et avec le reste du vivant aussi, en ensauvageant des zones et en disant à ceux qui en ont besoin, tiens, viens cultiver, t'as pas de jardin, viens cultiver chez moi.
Suivez Eric Lenoir sur le réseau de Face de Bouc, bien sûr, parce que c'est que là que il est. Eve, un petit coup de cœur, une pépite.
Ça serait un roman, je pense. Moi, il y a un roman qui m'a beaucoup touchée, c'est Dans la forêt. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais
qui est en bande dessinée aussi, d'ailleurs, je tiens à dire, et qui est merveilleux.
Ouais, et pour moi, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont un peu livrées à elles-mêmes dans une forêt, et puis qui apprennent en fait à survivre ensemble, et donc peu à peu à s'intéresser à ce qu'il y a autour d'elles, et puis finalement à se débrouiller avec ce qui existe. Et je trouve que c'est assez beau, assez poétique, et ça c'est vraiment le chemin, je pense, qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment revenir à cette écoute, à cette attention portée à ce qui nous entoure, finalement réapprendre à apprécier ce qui est juste à côté de nous, qu'on voit plus, qu'on voit pas, et c'est vraiment ce chemin là qu'elles font, ces deux sœurs. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé.
Merci beaucoup. Et puis moi aussi j'ai les coups de cœur à partager. J'ai deux expositions, mais sur le même sujet. L'exposition Insecta Corporation au Jardin Botanique à Bordeaux, il faut la voir. Et puis, une expo qui est très très similaire, Mini Monstre au Jardin des Plantes de Paris. Des expos qui nous rappellent que le rôle de tous ces petits insectes, de tous ces, ce qu'on appelle peut-être des nuisibles, ce qu'on appelle des, ouais, enfin, ce qu'on méprise, et la vermine. Et voilà, des expos pour nous remettre un tout petit peu les idées en place. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ève. Merci beaucoup.
Merci, Éloi.
Merci, Eric.
Merci, Éloi.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site et sur YouTube. Oui, d'ailleurs, si vous voulez partager, bien sûr, c'est la bienvenue. Corrompons un petit peu l'algorithme de YouTube et puis forçons-le à pousser très très haut un peu d'intelligence vers les sommets. Ça serait très bien. Et tout ça, ça dépend de vos commentaires, de vos partages, de vos likes, etc., etc., etc. Merci beaucoup. Vous pouvez également retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Demain, par exemple, en faisant votre footing, vous vous replongez dans tout ce qui a fait le sel de cette émission. Dans mon cœur, il y a une salve d'applaudissements, une brassée de gratitude envoyée vers Laura, Nils et toute l'équipe du Cube qui, depuis 12 ans, accueille ces émissions. Tristan, au plateau, au son, au sourire aussi, et puis aux lumières. La lumière, c'est toi, Tristan. Les amis JD Carré, Jonathan, Jérémy, mais aussi Jordan, aux platines, à la production, à la réalisation, vous êtes talentueux et en plus, vous êtes beaux. Et puis, des applaudissements vers tous les cosphères Aguelos qui, entre Bordeaux et Paris, déploient des dispositifs de communication qui n'en finissent plus de me surprendre. Bienveillance, compétence, résilience. On sait pourquoi on vit cette maxime. A priori, tout est possible. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement et regardons les arbres pousser.
Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, sciences, numérique. Depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.